Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux. Je précise que cette soirée est organisée en partenariat avec ce qu'on appelle couramment les SSF, les Semaines Sociales de France. Sans insister plus longuement, les Semaines Sociales de France ont comme objectif de développer dans le monde qui est le nôtre, dans les arcanes et les débats de l'actualité, la doctrine sociale de l'Église à l'éclairage des valeurs de l'Évangile et des valeurs de nous, comme chacun comme citoyen. Voilà. Donc, comme beaucoup de gens, comme beaucoup en Occident, nous avons tous été surpris, atterrés devant la soudaineté et la brutalité de l'invasion et de l'invasion en Ukraine il y a bientôt 2 mois maintenant. Et d'autre part, beaucoup d'entre nous, préoccupés ou intéressés par la question du fait religieux, des questions religieuses, ont notamment été surpris et très interpellés sans doute par la dimension religieuse des interrogations, des questionnements et des prises de position tout aussi brutales qui ont pu avoir lieu dès le départ de cette agression et de cette guerre, tant de la part de responsables des différentes parties et surtout de la violence qu'elle a pu exprimer. Je me souviens d'un article de Sylvie Kaufmann, pardon, dans Le Monde, essayant d'expliquer un peu les différentes prises de position et qui terminait son article « Du nom de Dieu, dans tout cela, il n'a jamais été fait mention ». Pour nous éclairer ce soir, donc, sur ce paysage à la fois non pas géopolitique, parce que ça serait beaucoup trop compliqué et puis ce n'est pas le but, mais sur l'architecture ou disons le paysage, la structure très complexe de ce qu'est la religion orthodoxe et de ce qu'elle représente au niveau des pays d'Orient qui sont concernés, Russie, Ukraine, Biélorussie. Notre invité ce soir, Antoine Arjarkovski, je dis bien dans le... nous a fait le plaisir de répondre très rapidement à l'invitation que nous lui avions faite. Antoine Arjarkovski est historien. Il a travaillé pendant... vous êtes français, mais d'origine slave. Voilà, de slave, disons, d'origine très complexe de par toute votre généalogie, mais tout à fait au fait de la complexité justement dont nous parlions sur toutes ces régions de l'Orient, de l'Europe orientale. Donc il a travaillé au ministère des Affaires étrangères jusque dans les années 2002, puis ensuite en Ukraine, à l'université privée, enfin catholique, hein, d'Ukraine, et ensuite a fondé en 2004 l'Institut d'études œcuméniques de Lviv. Et vous avez été sollicité par le Collège des Bernardins en 2011 pour co-diriger un laboratoire de recherche politique et religion, pour faire très large. Donc vous êtes non seulement par vos origines, mais par vos circulations professionnelles et d'intérêt personnel très au fait et un fin connaisseur de l'histoire et de la géopolitique en Ukraine et en Russie. Donc voilà, si dans un premier temps, pouvez-vous, je sais que c'est une gageure puisque je suis aussi, je vous l'ai dit, maître et maîtresse du temps, nous éclairer dans un premier temps, d'une part sur ce qu'on peut appeler l'orthodoxie, hein, dans le contexte de ce pays, et aussi surtout nous donner peut-être une vue d'ensemble de la complexité des religions et du paysage religieux entre l'Ukraine et la Russie.
Là, vous m'entendez. Là, c'est bien. Bien, d'abord, je vous salue. Je suis très heureux d'être parmi vous et je salue également les Semaines Sociales de France. Il se trouve que je fais partie du conseil d'administration des Semaines Sociales de France. Donc, c'est un plaisir double de découvrir ce lieu magnifique et d'avoir cette rencontre avec vous sur un sujet qui m'est cher, hein, l'Ukraine, la Russie. J'ai passé en tout, du coup, 17 ans en Russie et en Ukraine, à la fois donc dans ce cadre d'ambassade et dans un cadre privé universitaire. Et c'est vrai que j'ai écrit pas mal de livres sur le sujet. Et pour répondre à votre première question sur la question d'avoir une idée de ce qu'est l'orthodoxie, et notamment en Russie et en Ukraine, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que l'orthodoxie ?» Et dans ce livre, ce que je raconte, c'est que il faut essayer de prendre un peu distance par rapport à ce qu'on entend en général par l'orthodoxie. L'orthodoxie, on dit le plus souvent dans les médias que c'est la religion des églises orientales qui se sont séparées de l'église romaine catholique à partir du XIe siècle, 1054. Et après les croisades, voilà, quelque chose qui est devenu vraiment en schisme par rapport au catholicisme. En réalité, c'est pas une bonne vision des choses, puisque encore au XVe siècle, en 1439, il y a eu ce fameux concile de Florence, et au concile de Florence, l'ensemble des églises de l'époque, il n'y avait pas encore de protestants, toutes les églises d'Orient et d'Occident se sont réunies et se sont réconciliées autour de tous les sujets qui posaient un problème à l'époque. Donc, ça n'est en fait qu'à partir du XVIe siècle qu'on a commencé à utiliser les termes d'orthodoxie pour désigner les églises d'Orient, de catholique pour désigner les églises d'Occident, et de protestants pour désigner les héritiers de Luther et de Calvin. Donc on est dans une logique depuis le XVIe siècle qui comprend l'orthodoxie par la définition « orthodoxie, c'est celui qui est fidèle à ». Et ça, tous les chrétiens ont cette définition de l'orthodoxie de « nous sommes fidèles à ». Alors, les catholiques, en France, par exemple, disent « nous, nous sommes des catholiques, nous sommes orthodoxes dans notre foi, simplement, comme on n'arrive pas à convaincre avec la raison, eh bien, on va dire, notre orthodoxie, notre gouvernail de la foi, parce que c'est ça que ça veut dire, l'orthodoxie, c'est le gouvernail de la foi, notre orthodoxie, elle est fidèle à en premier lieu l'évêque de Rome. Sur des sujets où on n'est pas d'accord, on argumentera les uns et les autres, mais au bout du compte, le critère qui fera l'orthodoxie, qui fera la vérité, c'est notre fidélité à Rome. Les églises protestantes, elles disent, on n'arrive pas à vous convaincre que, je ne sais pas, sur la transsubstantiation, on n'est pas tout à fait d'accord. Au bout du compte, le critère de notre orthodoxie, à nous, luthériens ou calvinistes, c'est d'être fidèle à les Saintes Écritures. C'est la Bible, au bout du compte, qui nous permet de dire, finalement, si l'évêque de Rome a une autorité supérieure ou pas. Et donc, le critère principal, c'est les Écritures. Les églises orientales, qui se définissent comme orthodoxes, elles disent, nous, notre fidélité, elle va en premier lieu, avant même l'évêque de Rome, avant même les Saintes Écritures, les conciles écuméniques. Il y a un livre qui a été écrit par Callistos Ware, qui est considéré comme la grande autorité dans le monde orthodoxe, qui s'appelle « L'orthodoxie, l'église des sept conciles écuméniques ». Les sept conciles écuméniques qui ont eu lieu entre 325 et 787 et qui ont défini le cristal dogmatique de la foi orthodoxe des orientaux, à savoir que le Christ est vrai Dieu et vrai homme, et que la Trinité est une réalité personnelle qui s'auto-révèle comme Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ça le cœur de la foi qui est donc, qui trouve sa vérité, sa rationalité à travers une tradition qui est celle des conciles. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est dans le, c'est comme ça qu'on se définit orthodoxe depuis le XVIe siècle, c'est par des fidélités différentes. Mais en réalité, l'orthodoxie de la foi, elle n'a pas commencé au XVIe siècle. Il n'y a pas que la mémoire fidèle. L'orthodoxie, c'est aussi la vérité droite, c'est aussi la connaissance de justice, c'est aussi la juste glorification. Je n'ai pas le temps de détailler tous ces points, mais sachez que dans les premiers siècles de l'Église, ce n'était pas du tout le rapport à la fidélité qui était déterminant pour la rationalité de la foi, pour le gouvernail de la foi. C'était plutôt l'aspect justement de juste glorification. La doxa, ça signifiait, avant de dire la vérité, ça signifiait, c'était plutôt le sens de la gloire. C'était la traduction dans les Septante du terme gloire, kabod. Kabod a été traduit par doxa. Et donc la juste glorification, c'était la bonne façon de célébrer. Bref, il se trouve que depuis le XVIe siècle, nous sommes dans cette compréhension de l'orthodoxie comme la mémoire fidèle, et pour les orientaux, la mémoire fidèle au Saint-Concile. Et dans le monde slave, on a reçu cette compréhension de l'orthodoxie lors du baptême de la Rousse en 988. Le prince Vladimir a reçu le baptême de missionnaire byzantin. Et cette orthodoxie de la foi, elle s'est maintenue jusqu'au XVIe siècle. Et puis à partir du XVIe siècle, il y a eu une fourche qui s'est produite, selon qu'on était à Moscou, à Kiev ou dans le Biélorusse. À Moscou, ce qui était important, c'était de se libérer de l'emprise des Tatars. La Moscovie a été très longtemps dominée par le joug tatar. Les amateurs de Jules Verne se souviennent de Michel Strogoff. Et l'enjeu principal des moscovites orthodoxes, c'était de se libérer du joug tatar, de prendre leur distance par rapport à Constantinople, l'église mère, Byzance, et de déclarer son autocéphalie, sa capacité à élire son propre primat à partir de 1448. Donc 1448, il y a une rupture qui se fait au sein de la métropole de Kiev, celle qui a reçu le baptême en 988, entre ceux au nord, en Moscovie, qui fondent leur propre église, qui va mettre du temps avant d'être reconnu par Byzance, ça n'aura pas lieu avant 1588, et puis ceux au sud qui, eux, diront, nous, notre orthodoxie, eh bien, on veut la maintenir en communion avec Rome. Voilà. Donc, c'est ça le partage qui va être à l'origine de deux consciences nationales, la conscience nationale russe au nord et la conscience nationale ukrainienne au sud. Vous voyez que la dimension religieuse, elle est très importante. Et pour arriver au XXIe siècle, à aujourd'hui, pour aller très vite, parce que je ne veux pas être trop long, je veux juste préciser qu'aujourd'hui, du coup, l'orthodoxie en Ukraine, ça représente 25 millions de fidèles. Pour un pays, on va dire, de 40 millions de personnes, il y a des chiffres qui prennent la Crimée, d'autres qui ne prennent pas la Crimée, on va dire 40 millions de personnes, il y a 40 millions de citoyens ukrainiens aujourd'hui. Sur ces 40 millions de citoyens ukrainiens, il y a 31 millions de chrétiens. Et sur ces 31 millions de chrétiens, il y a 25 millions d'orthodoxes, et donc 5 millions de gréco-catholiques, de catholiques de rite oriental, les chiffres varient, on va dire 600 000 catholiques romains et encore 500 000 protestants. Ça, c'est pour l'Ukraine. Et pour la Russie, là, on parle d'un pays beaucoup plus grand qui fait plus de 140 millions de citoyens. Et le patriarcat de Moscou, l'église orthodoxe, est l'église dominante en Russie. Et elle considère, alors les chiffres là aussi varient, mais l'église russe dit que nous avons plus de 100 millions de fidèles en Russie. En fait, les statistiques disent que c'est plutôt 70 millions de personnes qui se définissent comme orthodoxes, et les statistiques sur les pratiques sont encore plus faibles. Mais pour le monde orthodoxe en général, si on choisit le chiffre du patriarcat de Moscou de 100 millions de fidèles, c'est énorme, parce que l'ensemble du monde orthodoxe est 200 millions d'orthodoxes dans le monde. Donc vous voyez qu'une église qui définit son poids par 100 millions de fidèles, c'est déjà la moitié du monde orthodoxe. Et ce monde orthodoxe, de ces églises orientales donc qui se définissent comme orthodoxes en référence au concile écuménique, c'est aujourd'hui 15 églises autocéphales dans le monde. Vous savez que, et c'était le cas au premier millénaire, et il y avait un consensus entre catholiques et orthodoxes là-dessus, quand vous lisez le premier chapitre de l'Apocalypse, on parle des 7 églises d'Orient. L'église d'Éphèse, l'église de Laodicée, etc. Il y avait cette idée que la catholicité de l'église n'était pas nécessairement liée à une seule église. La catholicité de l'église, katholon, ça voulait dire selon le tout de la vie trinitaire. Et donc, si l'église terrestre doit vivre selon le tout de la vie trinitaire, elle doit être plurielle. Il y a des églises qui doivent être locales et qui sont un petit peu pour les mathématiciens, c'est une figure fractale, une figure de fractalité.
Et il y a le chiffre 7 des 7 églises qui est aussi
un chiffre d'universalité. Mais il y a surtout cette figure mathématique de la fractalité qui est la répétition d'une même figure à différentes échelles. Ça veut dire si un évêque comme l'évêque d'Antioche par exemple, Ignace d'Antioche dont on connaît les lettres sur la catholicité, dit là où est l'évêque, là est l'église. Ça signifie que là où est l'évêque, c'est là où est la personne qui représente le Christ, eh bien là est l'Église. Donc ça signifie que les églises d'Orient n'ont pas une vision de la catholicité comme étant une universalité qui doit dépendre d'un seul centre qui doit être Rome. Et du reste, pour Rome, c'était compris comme ça au premier millénaire, les conciles écuméniques, il y avait la pentarchie, le patriarche de Constantinople, le patriarche d'Antioche, etc. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'église d'Orient, l'église orthodoxe, a maintenu cette idée que si la catholicité c'est selon le tout de la vie trinitaire, il doit y avoir une synodalité, il doit y avoir une communion d'églises qui doivent se reconnaître mutuellement comme église du Christ. Et donc il y a les 5 églises de la pentarchie originelle, c'est-à-dire Rome en premier lieu, mais Rome, on est en schisme depuis le 16e siècle. Ensuite vient Constantinople, Antioche, Alexandrie, Jérusalem. Et puis après, à partir du second millénaire, 10 autres églises qui sont apparues et qui ont été reconnues par Constantinople, l'église de Bulgarie, l'église de Grèce, l'église de Serbie, etc. Et ça fait en tout 15 églises. Et en plus de ces 15 églises, il y a des églises autonomes, c'est-à-dire qui n'ont pas la capacité propre d'élire leur propre chef. Par exemple, l'église du Japon, il y a une église orthodoxe au Japon, avant qu'elle puisse élire son primat, elle doit avoir l'autorisation de Moscou pour élire son primat. L'église de Finlande, c'est pareil. Donc voilà, c'est ça l'architecture du monde orthodoxe aujourd'hui. Et pour le contexte ukrainien, peut-être je termine juste sur la question ukrainienne, parce que c'est ça qui a déclenché le feu aux poudres. En 2016, il y a eu un concile panorthodoxe. Concile réunissant, à l'époque, les 14 églises orthodoxes. Concile auquel j'ai pu participer, ça s'est passé en Crète, j'étais très heureux d'y être et d'observer la rupture qui s'y est produite. C'est un concile qui a été préparé pendant plus de 40 ans, à partir des années 60, au moment où l'Église catholique faisait Vatican II. À l'époque, c'était le patriarche Athénagoras. Il a dit, nous, on va faire pareil. On ne s'est pas réunis en concile depuis des siècles. Et là, les catholiques, ils y arrivent. Nous, on va y arriver aussi. Et puis, les orthodoxes n'y sont pas parvenus. C'était la guerre froide. Il y avait d'un côté Moscou qui dépendait du pouvoir communiste. D'un autre côté, Athénagoras de Constantinople qui était plutôt dans le camp démocratique. Il y a eu schisme. Ça a été relancé après la chute du mur de Berlin. Là encore, ça a été compliqué. Et finalement, enfin, en janvier 2016, on a dit, ça y est, c'est sûr, on est d'accord sur 6 sujets qui posent problème dans le monde orthodoxe. Par exemple, à quel moment on doit célébrer la date de Pâques? Par exemple, à quel moment... Enfin bref, le statut de la diaspora. Il y avait des tas de sujets qui n'étaient pas réglés depuis des siècles. Et comment on va proclamer l'autocéphalie? Comment on va autoriser une église à se dire autocéphale? Tout le monde était d'accord. Et puis, à 15 jours du concile panorthodoxe, qui était préparé depuis 40 ans, l'église russe dit « Nous, on ne viendra pas. » On ne viendra pas. Cette question de l'autocéphalie, on ne la sent pas du tout. On craint que Constantinople, une fois qu'on aura signé tous les documents, ne saisisse l'opportunité pour déclarer l'autocéphalie de l'Église orthodoxe d'Ukraine. Et nous, on ne veut pas participer à ça. Et c'était quoi le problème? Le problème, en 2016, c'était qu'il y avait 3 églises orthodoxes en Ukraine. La première date, on va dire, de 1686. En 1686, les Roussines du Nord, les Moscovites, ont envahi la Rousse du Sud, qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine, à la demande des Cosaques Zaporog, pour se protéger de l'influence polonaise. Le tsar est venu jusqu'à Kiev et a dit, bah, puisqu'on est là, on va demander à Constantinople de pouvoir nous-mêmes nommer les évêques de Kiev. Constantinople n'avait pas le choix, Constantinople était sous domination ottomane, et Constantinople a dit d'accord, à condition que le métropolite de Kiev nommé par Moscou me nomme moi, patriarche de Constantinople, comme le primus inter pares, comme le primat de la communion orthodoxe. Tout le monde était d'accord là-dessus. Et ça, ça a donné cette église orthodoxe qui avait reçu le baptême de 988 comme changeant de juridiction dépendant de Moscou. Cette église-là, aujourd'hui en Ukraine, on dit qu'elle fait environ 5 millions de fidèles sur les 25 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça veut dire, c'est pas la plus nombreuse, mais c'est elle qui a le plus de communautés parce que Staline a autorisé son existence et donc elle est présente en Ukraine depuis au moins 1943. Alors que vous savez qu'après la Révolution, toutes les églises avaient été persécutées. Il y avait une deuxième église orthodoxe qui était née dans les années 20. En 1917, l'Ukraine a voulu proclamer son indépendance, déjà. Et Lénine n'a pas voulu. En 1922, l'Union soviétique a été proclamée. Cette église s'est constituée, a été pourchassée, est partie au Canada et aux États-Unis, et elle s'appelle l'église autocéphale. En 2016, elle était minoritaire. Elle faisait quelques centaines de milliers de fidèles. Mais elle avait le prestige d'avoir été reconnue aux États-Unis et au Canada par Constantinople. Et puis il y avait une troisième église qui s'appelait le Patriarcat de Kiev et qui, elle, pareil, en 91, quand l'Ukraine a demandé son indépendance et l'a obtenue cette fois, elle s'est constituée par opposition à cette église dépendant de Moscou en disant « Nous, on crée notre État ukrainien, on veut une église ukrainienne, on veut prier dans notre langue ukrainienne ». Et c'est devenu l'église la plus nombreuse, puisqu'elle fait aujourd'hui 15 millions de fidèles. Donc vous voyez, 15 millions de fidèles là, plus 5 millions de fidèles du patriarcat de Moscou, et il reste encore 5 millions de fidèles de chrétiens qui, en Ukraine, quand on les interroge, disent « Moi, je suis orthodoxe, mais ne me demandez pas à quelle juridiction j'appartiens à l'église du Christ, etc. » Et donc, le patriarcat le patriarche de Constantinople, Bartholomée, en 2016, a vu que Moscou ne venait pas au concile panorthodoxe, donc ne reconnaissait plus son autorité. Du coup, a vu qu'il y avait le désordre en Ukraine avec 3 églises orthodoxes qui n'étaient pas en communion entre elles. Et troisièmement, a vu qu'une guerre avait lieu désormais entre la Russie et l'Ukraine, puisque c'était déjà après l'annexion de la Crimée en 2014. Et du coup, a dit, bah, puisque les orthodoxes d'Ukraine me demandent depuis plus de 1000 ans, puisque vous le savez, cette église a été fondée en 988 avec le baptême de la Rousse de Kiev. Puisque les orthodoxes de Kiev me demandent depuis 1000 ans d'avoir leur autocéphalie, de pouvoir nommer leur propre évêque qui soit ukrainien, et puisque je vois que c'est parce qu'ils dépendent de centres extérieurs qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, moi je vais leur donner l'autocéphalie. Et du coup, sur les 3 églises réunissez-vous en une seule église locale. Deux ont accepté, c'est l'église autocéphale et le patriarcat de Kiev, et la troisième, celle qui dépendait du patriarcat de Moscou, a reçu un oukase de Moscou, du patriarche Kirill, en disant « hors de question ». Et donc ce ne sont que quelques évêques qui ont rejoint cette église, dont le chef aujourd'hui est le métropolite Épiphanie. Voilà le paysage de l'orthodoxie. Du coup, en Ukraine, c'est deux églises, l'église autocéphale d'Ukraine, la plus nombreuse, qui vient d'être reconnue dans son autocéphale et qui est reconnue par d'autres églises orthodoxes dans le monde, et cette église orthodoxe ukrainienne qui n'a aucune autonomie, qui dépend du patriarcat de Moscou et qui est aujourd'hui bien embêtée parce qu'elle dépend d'un chef Kirill à Moscou qui a béni l'invasion de l'Ukraine par les soldats russes. Et du coup, son chef, le métropolite Onufre, très vite après l'invasion, au mois de février dernier, a dit « Mais moi, je trouve que cette invasion est scandaleuse. Certes, on peut parler de peuple frère, mais là, c'est comme Caïn qui tue son frère Abel. Et nous, nous sommes Abel, c'est injuste. Nous sommes contre. » Et toute la question aujourd'hui, c'est de savoir, si tu es contre que ton propre supérieur hiérarchique bénisse l'invasion de ton pays, qu'est-ce que tu fais ? Et on en est là.
Alors, on peut peut-être justement rebondir sur la question de cette prégnance des séparations entre les autocéphalies et en ce qu'on peut appeler la dissension entre les patriarcats, pour faire un peu le lien avec le rôle des églises dans l'intrication qu'elles ont dans le facteur politique. Comment est-ce que les dissensions des États prennent comme prétexte les dissensions des églises pour lancer ou pour augmenter ou pour amplifier l'état de guerre, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Et je voudrais aussi poser la question, par exemple, comment l'autocéphalie conquise par l'Église d'Ukraine a aussi, je mets des guillemets, arrangé l'État ukrainien. Enfin, quelle est la partition que peut jouer chaque État derrière? Et revenir également à Kirill au niveau de Moscou. J'ai vu à un moment donné que pendant plusieurs années, notamment après la chute du communisme, l'église de Moscou avait ressurgi quelque part, fait un peu redorer quand même son blason par rapport aux années de persécution. Et je ne sais pas si on peut dire qu'elle avait une certaine indépendance, mais peut-être plus, et qu'actuellement on a l'impression qu'il y a une mainmise très forte du pouvoir politique, et quelle est la marge d'action qu'il peut y avoir là. Je vous poserai après une autre question sur le monde russe et les valeurs morales. Mais si vous pouviez déjà rebondir un peu là-dessus.
Oui, le sujet de la conférence ce soir, c'est Ukraine, l'idéologie, la religion, la guerre.
Ouais.
Et parlons un peu d'idéologie. L'idéologie en sciences politiques, c'est comme l'hérésie en sciences dogmatiques. C'est-à-dire, l'hérésie, vous savez, en grec, ça veut dire la vérité partielle. Ça veut dire, c'est un bout de vérité. Arius disait, le Christ, il est parfaitement homme. Et ça, il avait raison. Par contre, il ne reconnaissait pas que le Christ était parfaitement Dieu. Et cet arianisme-là, ça a donné une hérésie qui s'est poursuivie d'une certaine façon jusqu'à nos jours. Donc, quand on dit hérésie, il y a part de vérité, mais aussi énorme mensonge. Et idéologie, c'est pareil. Il y a part de vérité, mais aussi énorme mensonge. Et donc, la religion est utilisée pour justifier des visées politiques. C'est ça qu'on appelle l'idéologie dans le cas qui nous occupe. Et pour faire quelque chose pour rendre les choses très simples, et pour vous dire combien cette idéologie est une véritable dynamite qui risque d'emporter non seulement la Russie et l'Ukraine, mais peut-être toute l'Europe et peut-être le monde entier. Je voudrais faire une analogie avec le conflit franco-allemand. J'ai organisé une commission de vérité, justice et réconciliation entre la Russie et l'Ukraine avec la médiation de l'Union européenne au Collège des Bernardins en 2018-2019. On a trouvé des partenaires en Russie, notamment l'association Mémorial, en Ukraine, notamment l'Académie Mogila, et en France, notamment le Mémorial, la région Normandie, le Forum Normandie pour la paix. Et donc pendant 2 ans, on s'est réunis avec plus de 200 intellectuels russes, ukrainiens, européens, avec des points de vue différents, des convictions différentes, mais avec la même ambition de construire la paix, à travers un processus où on dit la vérité et on essaye de faire la justice, un peu sur le modèle sud-africain. Et l'unique, c'est pas l'unique plutôt, mais la conclusion principale à laquelle nous sommes arrivés, ces 200 personnes très différentes dont je viens de vous présenter, diplomates, journalistes, théologiens, universitaires, associations humanitaires, etc. Ce à quoi on a abouti, c'est que ce conflit russo-ukrainien, dont je vous rappelle qu'il date depuis 2014, avec l'annexion de la Crimée, est comparable au conflit franco-allemand, parce que dans un cas comme dans l'autre, il y a deux idéologies qui s'affrontent. Une idéologie impériale qui considère que ce qui constitue un corps politique, le corps de l'empire, de l'État impérial, c'est des citoyens qui sont unis par une même langue, une même culture et dans certains cas par une même religion. En face, il y a une autre idéologie qui est celle de l'État-nation. Et qui est l'idéologie défendue par les Ukrainiens, alors que l'idéologie de l'Empire est celle défendue par Vladimir Poutine avec le patriarche Kirill. Eh bien, nous avons eu le même problème français et allemand en 1870, après, avec ce conflit avec la Prusse, qui a abouti à l'annexion de l'Alsace et de la Moselle, avec cette idée que si les Alsaciens parlent allemand, ils sont allemands. Si et du coup, ça a provoqué la réaction française de Ernest Renan en 1882. Il a fait une conférence à la Sorbonne. Qu'est-ce qu'une nation? Et dans cette conférence à la Sorbonne, il a dit: une nation n'est pas définie ni par la langue, ni par la culture, ni même par la religion. Une nation doit être définie par la conscience morale. Et la conscience morale pour Renan, 1882, donc 12 ans après la perte de l'Alsace et de la Lorraine, et en pleine Troisième République, la conscience morale pour Ernest Renan reposait sur liberté, égalité, fraternité. Eh bien, aujourd'hui, lorsque Volodymyr Zelensky est venu est intervenu par Zoom devant les parlementaires français, il a dit: nous partageons une même conviction. Ce qui nous unit, nous Ukrainiens, c'est pas qu'on est orthodoxe, catholique, même si c'est la majorité de nos citoyens. C'est justement ce qui dépasse nos divisions confessionnelles, linguistiques et culturelles. C'est notre conscience morale, et lui, il parlait ni d'égalité, de liberté, de fraternité. Lui, il parlait de dignité. Ce qui nous unit, et c'est pour ça qu'on a appelé la révolution de 2013-2014 la révolution de la dignité, c'est qu'on ne tire pas sur une foule qui manifeste pour, comme ça a été le cas en février 2014, demander un traité d'association avec l'Union européenne et affirmer son attachement à la civilisation européenne. Donc, voyez, le fond du problème, le fond du fond, c'est un conflit de deux visions de ce qu'est l'État. Est-ce que c'est un État-nation ou est-ce que c'est un État-empire? Et le conflit franco-allemand, il a abouti à, comme on le sait, 2 guerres mondiales. Ce conflit initial entre la Prusse et la France, ça aboutit à deux guerres mondiales. Donc aujourd'hui, ce conflit russo-ukrainien, on le voit bien. Il y a 3 jours, la coalition des 40 pays qui s'est réunie à Ramstein pour dire, derrière les États-Unis, on va vous fournir des armements offensifs et on va aller jusqu'au bout. Donc c'est explosif, cette situation. Et ça me permet du coup de vous dire que là, on est bien dans un conflit religieux, parce qu'on parle de théologie politique. Derrière cette distinction entre l'empire et la nation, il y a 2 conceptions théologico-politiques de l'État. Dans la théologie impériale, que ça soit celle du Troisième Reich à l'époque de Hitler, ou celui de la Troisième Rome, qui est la vision du patriarche Kirill, la première Rome est tombée au 5e siècle, après l'arrivée des barbares. La seconde Rome, Byzance, est tombée devant les Ottomans en 1453. Nous, Moscou, nous sommes la troisième Rome. Et il n'y en aura pas de quatrième. C'est nous qui actualisons le projet théologico-politique qui est le projet chrétien qui permet d'actualiser le pouvoir de Dieu sur la terre. Et donc, nous avons une mission de salvatrice, non seulement pour le peuple slave, mais pour la terre entière. Voyez ? Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est explosif.
Oui, on parlait carrément de mission eschatologique. Enfin, c'est carrément une menée vers le salut. Et je voulais juste vous citer, c'est pas très long, mais je trouve que c'est vraiment en miroir avec ce que vous dites. Donc, un article dont je vous parlais dans la dernière revue étude de Cathy Rousselet sur le patriarcat de Moscou, elle cite un propos d'une organisation que vous connaissez peut-être qui s'appelle Monde Russe. Donc le président est le petit-fils du ministre soviétique Molotov. Et donc il parlait ainsi du monde russe. Être russe ne signifie pas partager le même sang, mais éprouver le sentiment d'être lié au monde russe à travers une image du présent, de l'avenir, du passé, des gens, de la nation, du pays. Le monde russe en tant que civilisation est plus large que les ethnies et les territoires, les religions, les systèmes politiques, les prédilections idéologiques. Le monde russe est pluriethnique, pluriconfessionnel, plurisémantique. C'est un phénomène global qui ne peut être décrit par aucune définition. Structurellement, le monde russe est la Russie, plus les pays étrangers et les personnes qui s'intéressent à la Russie. Mentalement, ce sont tous ceux qui sont conscients de leur implication dans le monde russe, et en ce sens, l'appartenance au monde russe est un sentiment en soi. C'est assez effrayant. C'est vraiment le...
C'est une vision impériale. C'est une vision impériale qui masque quand même le fait que justement c'est la russité qui définit l'empire, qui se présente comme très ouverte, mais en réalité, par exemple, les bouriates en Sibérie ont perdu leur identité bouriate, ont perdu leur langue bouriate. C'est une idéologie qui, au bout du compte, impose la centralité de Moscou, la langue moscovite, la religion orthodoxe, etc. Et donc c'est la raison pour laquelle nous, avec un certain nombre de penseurs, nous avons publié une déclaration, il y a un mois, de critique du monde russe pour dire que cette déclaration... pour dire que l'idéologie du monde russe est une idéologie, en termes techniques, ethnophilétiste. Oui. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas la nation comme Ernest Renan, justement, comme la capacité à dépasser l'appartenance linguistique, culturelle et confessionnelle, mais qui comprend la nation, l'empire, comme fondée sur une ethnie. Voilà. Et ça, cet ethnophilétisme, il a été condamné par le monde orthodoxe en 1872. Et donc c'est la raison pour laquelle on a publié cette déclaration, je dis juste un mot, en nous souvenant que les Allemands avaient fait la même chose en 1934. Il y a eu cette fameuse, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, de la déclaration de Barmen. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la déclaration de Barmen ? Hitler avait instrumentalisé l'église protestante dans les années 30, au point que les luthériens et les calvinistes avaient créé les Deutsche Christian, l'église allemande qui proclamait le Troisième Reich. Et donc là, il y a quelques théologiens protestants qui s'y sont opposés à cette vision, là encore, ethnophilétiste du Troisième Reich. Et parmi eux, Karl Barth et Dietrich Bonhoeffer qui ont publié en 1934 cette déclaration de Barmen disant « Vous vous dites que pour rentrer dans le Reich, il faut parler l'allemand, il faut être protestant, etc. Nous nous disons « Lisez l'Évangile ». Lisez Saint Paul. Saint Paul dit en Christ il n'y a ni juif ni grec, donc ça ne peut pas marcher. Lisez ce que dit le Christ à la Samaritaine, ce n'est pas à Jérusalem ou sur le mont Garizim, mais en esprit et en vérité que tu célébreras le Seigneur ton Dieu. Tout ça va contre cette idéologie ethnophilétiste.
Et on a un peu l'impression que cette idéologie impérialiste, elle est aussi une espèce de récupération ou de remplacement ou de substitut à ce qu'a été le communisme, enfin l'idéologie communiste pendant un certain temps. C'est-à-dire qu'elle sert, elle est souvent liée, enfin dans les discours qu'on peut lire, soit de Kirill, soit de Poutine et d'autres, sur la notion extrêmement récurrente de valeur morale, de tradition, de spiritualité au sens très vague, mais que quelque part la religion a comme mission de jouer ce rôle que ne joue plus le communisme, enfin d'être une sorte de oui, je ne sais pas si c'est d'idéologie, mais de mouvement qui va d'une part empêcher quand même l'homme russe de trop peut-être se poser de questions, mais aussi on revient encore à cette notion de trouver son salut et le salut dans la puissance des valeurs traditionnelles, la famille, etc.
Oui.
Et il y a un peu ce jeu-là. En fait,
il y a beaucoup de choses à dire là. Il y a vraiment énormément de choses à dire. Moi, j'ai écrit un livre...
3 minutes, parce que j'aurais qu'on ait le temps d'aborder les questions de la paix. Après.
Ok. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Voyage de Saint-Pétersbourg à Moscou, anatomie de l'âme russe ». Je l'ai écrit en 2018, après avoir accompagné une croisière sur la Volga. Et m'être souvenu qu'il y a deux grandes figures de l'intelligentsia russe qui ont écrit eux-mêmes un voyage de Saint-Pétersbourg à Moscou. C'est Radichtchev à l'époque de Catherine II et Pushkin à l'époque de Nicolas Ier. Et ce que j'explique dans ce livre, c'est que l'âme russe est malade. Et elle est malade parce que, au XXe siècle, selon le livre noir du communisme publié par certains historiens comme Nicolas Vert ou Stéphane Courtois, il y a plus de 100 millions de morts non naturelles liées au communisme. Et sur ces 100 millions de morts, il y en a 60 millions en ex-URSS. Imaginez-vous des tragédies telles que le Golodomor, la grande famine qui a percuté l'Ukraine en 1932. Le Golodomor a fait, pour les estimations les plus basses, 5 millions de morts. Une famine qui a été prononcée, décidée au Kremlin par Staline. Nicolas Vert a retrouvé les textes signés par Staline demandant de détruire la culture paysanne ukrainienne en l'affamant. Eh bien, imaginez-vous que ça a abouti à 20 000 morts par jour pendant 6 mois. Aujourd'hui, on est effaré par ce qui se passe à Mariupol depuis 2 mois. 20 000 civils qui sont décédés. Voilà. Là, c'était 20 000 morts par jour pendant 6 mois. Ce crime-là n'a jamais été ni jugé ni condamné. Et si vous voulez, les historiens savent qu'un crime qui n'est ni jugé ni condamné est un crime qui est justifié. Et un crime qui est justifié est un crime qui est répété.
Et qui nourrit des rancœurs à perpétuité. Enfin,
qui nourrit des rancœurs, qui nourrit la crainte d'être accusé, qui nourrit la mauvaise conscience, etc. etc. Et donc, c'est pour ça que je voudrais... bien sûr que pour les Russes, il y a deux institutions qui sont restées entières après la fin de l'Union soviétique, c'est l'Église et le KGB. Voilà. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est le KGB qui représente l'architecture de l'État russe. Ça a été très bien montré par Catherine Belton dans son livre « Putin's People » et l'Église russe qui s'est verticalisée et qui en plus a des connexions très fortes avec le KGB. Et le seul titre de gloire finalement que les Russes ont par rapport à cette histoire tragique dont on parle, c'est du côté du KGB le fait que Staline a rendu possible la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a un tel culte de la Seconde Guerre mondiale, mais un culte qui est devenu tellement mythologique qu'on a l'impression que Staline n'a pas signé le pacte Molotov-Ribbentrop en 1939. C'est-à-dire qu'il a été en réalité à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale. Et comme si les alliés, les Américains, n'étaient pas entrés dans la guerre et n'avaient pas libéré l'Europe occidentale. On a oublié tout ça. C'est Staline qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale. C'est le KGB. C'est l'unique titre de gloire, mais qui est mythologisé. Et du côté russe, c'est pareil. Du côté de l'Église russe, il y a un titre de gloire, c'est le fait que l'Église a été martyrisée dans les années 20 et a produit des fruits de sainteté absolument remarquables. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu, vous l'avez dit tout à l'heure, un début de renouveau de l'Église russe, auquel moi j'ai vécu à Moscou donc entre 89 et 98. J'ai rencontré le père Alexandre Maigne. Il était l'héritier de cette Église des martyrs. Simplement, cette Église des martyrs, elle a été assassinée. Le père Alexandre Maigne a été assassiné. Il a été assassiné en septembre 90. Et donc, très vite, c'est l'Église collaborante, l'Église du patriarche Kirill, qui a repris le pouvoir sans aucun repentir. Voilà. C'est ça le grand malaise de ce pays que j'aime. Et que je ne cherche pas à accabler, mais dont je dis dans ce livre Voyage de Saint-Pétersbourg à Moscou, c'est un pays malade qu'il faut soigner, et si on ne le soigne pas, il va répéter. Et là, on parle de génocide aujourd'hui. On parle de génocide. Zelensky parle de génocide. Le Parlement canadien a voté hier que c'était un génocide ce qui se produisait aujourd'hui. Medvedev, le président russe, membre du Conseil de sécurité, a dit l'Ukrainité n'existe pas. Voilà. On veut éradiquer toute ukrainité. Et je ne vous parle pas des propagandistes dans la presse d'État. Donc, ça veut dire, c'est grave. C'est quelque chose qui est... On est à... Si le génocide, il y a 10 degrés jusqu'à la fameuse déclaration de Wannsee en janvier 1942 qui a déclaré la solution finale, on est à 8 sur une échelle de 10. On parle de fours crématoires portatifs pour brûler les victimes civiles qui sont aujourd'hui violées, égorgées, affamées du côté de Mariupol.
Alors, avant de vous laisser questionner Antonin Jakovski, je voudrais quand même qu'on aborde pour terminer une question importante. Si les religions... Vous venez de le déployer suffisamment, sont des acteurs de guerre. Comment peuvent-elles être des acteurs de paix? Et à l'intérieur de cette question, peut-être deux sous-questions. L'une concernant le rôle des églises à l'intérieur de l'Ukraine, quelle qu'elle soit, enfin orthodoxe, gréco-catholique, enfin en termes, je ne sais pas si on peut employer, je mets beaucoup de guillemets de précaution, le terme d'œcuménisme. Et mon autre sous-question, c'est la position, comment on peut actuellement, je ne sais pas si c'est jugé, mais au moins analyser la position du Vatican. Et sachant, certes, qu'il y a une volonté très forte, il y a une volonté très forte de Rome de rallier l'Église orthodoxe et de ne pas s'aliéner la Russie, mais qu'il y a aussi une amitié certaine entre le pape François et Bartholomée, le patriarche de Constantinople. Voilà, c'est des éléments un petit peu disparates que je vous pose, mais qui me semblent aller dans ce questionnement de la paix, par quel bout peut-on essayer de la saisir ou, disons, d'y trouver
C'est des questions qui me tiennent beaucoup à cœur et sur lesquelles on a beaucoup réfléchi dans le cadre de notre commission Vérité, Justice et Réconciliation. On a abouti à ce rapport avec 10 propositions pour construire la paix. En décembre 2019, qu'on a présenté à l'ambassade de France à Kiev, devant Étienne de Poncin, qui nous a reçus très gentiment, qu'on a présenté aux églises également, à la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev au mois de février 2020. Et puis là-dessus, le Covid est arrivé et j'ai plus entendu parler ni des églises, ni de l'ambassade de France, ni de l'Élysée. Aucune réaction. Les gens n'avaient plus le temps de s'occuper de nos propositions de paix et malheureusement, elles sont passées à la trappe alors qu'elles restent entières. Et il faut, à mon avis, les étudier de près. Il suffit d'aller sur le site du Collège des Bernardins, vous tapez Russie, Ukraine, Collège des Bernardins et vous trouvez le rapport qui se télécharge assez facilement. Et ce que nous disons, et là je parle au nom du groupe des 200 personnes qui ont participé à ce rapport de paix, c'est que la paix ne sera possible que si on passe par un chemin de vérité et de justice. Et ça n'est que lorsqu'on dira la vérité qu'on fera justice, qu'on arrivera peut-être à réconcilier. Et malheureusement, la différence par rapport à notre rapport de paix en 2019, c'est qu'aujourd'hui, on est allé tellement loin dans la radicalisation de la guerre que Zelensky, le président ukrainien, a annoncé, a donné une interview récemment pour dire que pour sa génération, et vous savez, il a 44 ans, il a dit « pour ma génération, ça n'est pas possible ». Il n'y aura pas de réconciliation entre les Russes et les Ukrainiens. Et il a ajouté, mais réfléchissons à la génération de nos enfants et de nos petits-enfants. Mais ça veut dire qu'on est allé très loin là. Depuis 2 mois, les choses ont complètement, se sont radicalisées de façon telle que mes amis ukrainiens qui avaient accepté de participer avec beaucoup de difficultés dans cette commission, aujourd'hui me disent... Et je vais terminer et je vais commencer du coup plutôt par la fin de votre question du pape François. Mes amis qui encore acceptaient en 2019, j'ai organisé une rencontre au Bernardin avec des artistes russes et ukrainiens. C'était déjà compliqué. Aujourd'hui, ils ne comprennent pas ce qu'a fait le pape François. Lors du chemin de croix, lors de la semaine sainte vendredi il y a 15 jours, où il a mis, lors de la 13e station à Rome, une jeune femme russe, une jeune femme ukrainienne, l'une à côté de l'autre. Voilà. Les Ukrainiens ont dit, mais comment se fait-il que le pape François, à aucun moment, n'ait dit qui était l'agresseur et qui est l'agressé ? Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un au même niveau en disant... Et en plus, il a ajouté, nous sommes tous responsables. Et mes amis ukrainiens disent, moi, je ne suis pas responsable du génocide qui a eu lieu à Boutcha. Moi, je suis la victime. Je ne suis pas l'agresseur. Et donc, le premier problème du pape François, c'est ça. C'est qu'il ne fait pas, au nom d'une diplomatie vaticane, et d'une diplomatie vaticane que les Ukrainiens supportent déjà avec tellement de mal depuis 30 ans, qui est cette hoste politique qui est qu'on ne parle qu'aux puissants, c'est-à-dire qu'on ne parle qu'au patriarche de Kirill, qui a un pays grand comme... qui a le plus grand pays du monde, qui est une vision à courte vue, puisque, d'accord, ces 100 millions de fidèles dont je vous parlais, en réalité, le taux de pratique religieuse à Moscou, il est de 2% un dimanche par mois. Alors que le taux de pratique religieuse à Lviv... En Ukraine, il est de 25% chaque dimanche. Donc, quelque part, les Ukrainiens ne comprennent pas pourquoi, sans arrêt, on privilégie le nombre, la grandeur, par rapport à la qualité de la foi. Mais bon, de toute façon, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Mais là, aujourd'hui, que le pape François dit « on est tout responsable, et les Russes et les Ukrainiens, allez, mettez-vous d'accord, vous êtes des peuples frères », ça, les Ukrainiens ne supportent pas. Et ça ne fait que renforcer notre conviction de notre rapport Commission Vérité, Justice et Réconciliation, qu'il faut d'abord passer par un chemin de vérité. Et ce chemin de vérité consiste à plusieurs choses. La première chose, ce que les églises peuvent faire, puisque c'est ça la question, les églises peuvent raconter une histoire vraie. Je vous ai dit que le patriarcat de Moscou, il est malade. Donc, ce n'est pas tellement l'institution du patriarcat de Moscou à laquelle j'ai fait appel. Par contre, j'ai fait appel à des théologiens et à des historiens russes. Et notamment un historien russe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Andrei Zubov, qui a été un des grands historiens capables de raconter une histoire de la Russie qui n'est pas une histoire de la Russie telle qu'on l'enseigne aujourd'hui dans les manuels de Russie, telle que malheureusement en France, on l'a reçue. Hélène Carrère-Dancausse est l'héritière de cette vision impériale de la Grande Russie. J'ai eu l'occasion de lui dire en face, nous ne sommes pas d'accord avec elle. Elle considère que la Crimée, par exemple, a toujours été russe. Alors que si vous faites appel à des historiens de métier qui regardent précisément les textes, eh bien vous vous apercevez que la Crimée, en réalité, elle n'a été occupée par des Russes qu'après que la Russie ait perdu la guerre de Crimée en 1854. Les Russes ne sont venus occuper la Crimée qu'à partir de 1856 et ne l'ont occupée jusqu'en 1917. Là-dessus, il y a eu la Révolution. Entre la Révolution 1917 et la Deuxième Guerre mondiale, la Crimée avait un statut autonome. Elle ne faisait pas partie de la Fédération de Russie. En 1945, elle a été réintégrée dans la Fédération de Russie jusqu'en 1954. Et là, on dit le cadeau de Khrushchev. Pas du tout. La Crimée a été rendue à l'Ukraine, puisque la Crimée n'a été, au bout du compte, occupée par le colon russe, un petit peu comme la guerre d'Algérie a abouti à ce que la France soit la puissance colonisatrice au XIXe siècle. C'est la même chose pour la Russie. La Crimée n'a été une colonie russe que, voilà, 1855 à 1917, 1945 à 1954, au bout du compte, quelques dizaines d'années. Mais avant, c'était les Cosaques. Et avant encore, c'était les Roussines. Et avant encore, c'était les Scythes. Et avant encore, c'était l'Empire romain. Et avant, voilà. Ça veut dire, cette idée...
D'une éternité, en fait.
D'une éternité... voilà.
Constitution.
Ça, c'est de la blague. Donc, je peux parler très longtemps de l'histoire russe. J'ai moi-même écrit il n'y a pas très longtemps, puisque j'ai réuni ces historiens et de Russie et d'Ukraine et que je suis moi-même historien, c'est là où je me suis le plus impliqué. Je peux parler très longtemps. Là, je prends juste un exemple pour vous dire qu'il faut sortir de cette historiographie russe, grand russe, impériale qui a été codifiée au XIXe siècle par Karamzin, qui consiste à penser qu'il y a une continuité totale de Vladimir, prince de Kiev, à Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. C'est mythologique. C'est la petite poupée russe qui est dans la grande matrioshka. C'est mythologique. Ça ne tient pas la route du point de vue historique. Et nous, en français, on peut savoir à quoi ça ressemble puisqu'on a fait pareil. Dans les années 1880, la Troisième République a érigé en face de Notre-Dame une statue de Charlemagne. Charlemagne, dont la capitale était à Aix-la-Chapelle, d'accord, pas à Paris. Eh bien, la Troisième République avait à cœur de dire que nous étions les uniques héritiers de Charlemagne. Voilà. Et c'est nous qui avons gagné la bataille de Bouvines. Et c'est pour ça qu'on s'est écharpé en 1914, au moment du 700e anniversaire de la bataille de Bouvines. Donc c'est le même problème entre Allemands et Français, et Russes et Ukrainiens. C'est de se présenter comme les uniques héritiers du Saint-Empire, de cette idée que, en étant les uniques héritiers, on actualise nous seuls le royaume de Dieu sur la terre. Voilà. Bon, première chose à faire, c'est dire la vérité, raconter la vraie histoire avec des historiens de métier, avec des regards croisés, comme le disait Paul Ricoeur. On sait faire. On l'a fait. Il y a un manuel franco-allemand. Après que Georges Duby ait publié son livre Le Dimanche de Bouvines, on est sorti de ces visions-là absurdes et sanguinaires. L'autre chose qu'on peut faire, c'est de faire la justice. Et les églises peuvent contribuer à ça. Desmond Tutu, en Afrique du Sud, a soutenu l'affaire des commissions Vérité, Justice et Réconciliation à la demande de Mandela et a permis que, ok, c'est peut-être compliqué aujourd'hui de réunir tous les héritiers des criminels staliniens qui ont été à l'origine du Golodomor ou de ceux qui ont détruit une église entière. L'église gréco-catholique ukrainienne, 5 millions de fidèles, a été tout simplement détruite, interdite complètement en mars 1946 par Staline avec le soutien du patriarcat de Moscou, malheureusement. Et encore aujourd'hui, le patriarcat de Moscou ne reconnaît pas que cette église de 5 millions de fidèles a été détruite, ses évêques emprisonnés, ses prêtres envoyés au goulag et ses fidèles emmurés vivants dans des appartements de Lviv. Ça n'est toujours pas reconnu comme un crime par l'église russe. Eh bien, l'église russe pourrait organiser des commissions vérité où on dise « ça n'est pas nous ». Moi, j'ai signé une déclaration pour dire « c'est pas moi ». Mais par contre, je suis pas solidaire de ça.
Oui, aider, effectivement, participer au fait que des protagonistes ou des parlent et petit à petit se parlent.
En voilà. Fait. C'est et se libère la médiation, conscience ouais. Et disent aux Ukrainiens pardon, pardon. Moi, j'y suis pour rien, mais je sais que mon père ou mon grand-père a contribué à ça et je demande pardon. Et je le referai plus. Parce que le problème, c'est que comme je le disais, si on est tétanisé par le crime terrible qu'ont fait ses ancêtres et qu'on n'ose rien dire, ben, si on n'ose rien dire, c'est qu'on est solidaire. Si on est solidaire, c'est qu'on va répéter. Et donc les Ukrainiens sont tétanisés par ça. Donc voilà, c'est ce travail de vérité et de justice. Mm-hmm. On ne peut pas parler de réconciliation tant qu'on n'aura pas fait ce travail de vérité et de justice. Et peut-être un dernier mot sur cette question de ce que peuvent faire les églises et ce qu'elles font déjà. Parce que pour le coup, en Ukraine... Moi, c'est là où j'ai créé cet institut d'études écuméniques en 2004. Les églises peuvent inventer une nouvelle ecclésiologie. Le malheur de l'ecclésiologie, tant de Moscou que de Constantinople, c'est que ce sont des ecclésiologies qui sont toujours sur ce logiciel dont je vous parlais au début de la mémoire fidèle, qui n'est pas un logiciel suffisant, qui a une part de vérité, mais qui n'est pas toute la vérité. L'orthodoxie, c'est pas juste la mémoire fidèle, c'est aussi la vérité droite, la connaissance de justice et la juste glorification. Et donc, l'ecclésiologie, ça peut pas être juste celle du territoire canonique, comme le prétend Kirill. C'est pas juste celle de Constantinople qui prétend être l'actuel, celui qui actualise la symphonie byzantine, du patriarche qui s'occupe des âmes, et de l'empereur qui s'occupe des corps. Ces deux ecclésiologies-là ne sont pas chrétiennes, en fait. Donc, un bout de vérité. L'ecclésiologie œcuménique, celle que je défends dans un certain nombre de livres, c'est une ecclésiologie qui est à la fois baptismale, eucharistique et pastorale. Ça veut dire que c'est une ecclésiologie ouverte à tous les baptisés, une ecclésiologie eucharistique qui fonde l'Église sur le sacrement de l'Eucharistie, et une église pastorale. Une ecclésiologie pastorale, c'est une ecclésiologie qui dit, par exemple, à Nantes, il y a des réfugiés ukrainiens, il y a un évêque catholique ou un évêque orthodoxe. Ces réfugiés ukrainiens, ils sont dans une église locale dont l'évêque est catholique, mais puisqu'ils sont ukrainiens et que leur pasteur est orthodoxe, ils peuvent relever aussi du pasteur orthodoxe. C'est ça. Ils sont ancrés eucharistiquement, localement, mais ils sont aussi, ils relèvent d'un pasteur qui est ukrainien orthodoxe et qui peut-être vit dans un autre pays. Et donc, c'est possible d'avoir une ecclésiologie qui soit à la fois baptismale, eucharistique et pastorale. C'est une ecclésiologie œcuménique où toutes les églises ont travaillé dans le cadre du Conseil œcuménique des églises depuis des années et qui, aujourd'hui, doit avancer. Et là où elle est le plus en retard, malheureusement, c'est du côté des églises orthodoxes.
Bien, le temps est venu de vous laisser la parole pour quelques questions après cet exposé et entretien très riche.
Bah, c'est-à-dire que Vladimir Poutine, il se définit comme chrétien orthodoxe et il a même raconté un jour à George W. Bush qu'il avait été sauvé par une croix de baptême et puis aussi par la foi de sa maman, etc. Bon, il raconte des histoires. Là, à Pâques, il a posé un cierge à la cathédrale du Saint-Sauveur. au moment où, devant la cathédrale du Saint-Sauveur à Moscou, il y avait une personne âgée, je crois, qui avait juste un panneau où c'était marqué ne, tu ne tueras point. Voilà, vous avez entendu parler de cette histoire. Voilà. Et elle a été attrapée par la police et envoyée en prison qu'elle ne pouvait pas dire tu ne tueras point. Donc ça veut dire, c'est une orthodoxie, c'est comme Loukachenko qui a dit un jour, moi je suis orthodoxe mais je ne suis pas chrétien. L'orthodoxie, c'est cette appartenance au monde russe. C'est une religiosité de façade qui n'a rien à voir avec l'évangile, en fait, qui n'a rien à voir avec, avec ce dont je parlais d'une orthodoxie comme vérité droite, juste glorification, mémoire fidèle et connaissance de justice. Donc, en fait, c'est surtout quelqu'un qui cherche à se parer d'une sorte de sacralité, où en plus il a un rôle important, puisque dans cette sacralité byzantine, c'est lui le patron, donc c'est très bien, ça lui permet de pouvoir protéger sa fortune. On sait que c'est l'un des hommes les plus riches du monde. Sa fortune est supérieure à, pour certains, à celle de Jeff Bezos, le patron d'Amazon. C'est des dizaines de milliards de dollars. Et donc, il cherche à protéger ça. Et si une religion lui donne la place la plus importante, eh bien, il la prend.
D'autres, notre question?
Je vous recommande de lire mes livres.
Il y en a quelques-uns qui sont à la sortie, hein, vous regardez.
J'ai écrit 3 livres qui sont en lien direct avec ce que je viens de vous raconter. En 2014, Russie-Ukraine, de la guerre à la paix. C'était le premier livre qui parlait du conflit russo-ukrainien comme d'une vraie guerre. Et là, on est en train de. J'espère que l'éditeur va le rééditer. Ça prend du temps, malheureusement. Et du coup, je l'ai relu et je ne regrette pas une phrase de ce livre. Donc tant mieux, parce que je l'avais écrit un peu à chaud. Donc ça, c'est Russie-Ukraine de la guerre à la paix, point d'interrogation. Et puis le deuxième livre, en 2016, que j'ai sorti, c'était Russie-Occident, comment sortir du conflit? Parce que je comprenais déjà que le conflit russo-ukrainien allait entraîner un conflit plus large entre la Russie et l'Occident. Et puis le troisième livre, dont j'ai parlé tout à l'heure, Voyage de Saint-Pétersbourg à Moscou, Anatomie de l'âme russe. C'était pour essayer de commencer à régler le problème de fond, qui est que cette âme russe, elle est malade et qu'il faut la soigner et qu'il faut d'abord, avant de la soigner, comprendre la profondeur, la gravité de la maladie. Et donc, les Russes tout seuls n'y arrivent pas. Au même titre que les Allemands tout seuls, après la Deuxième Guerre mondiale, n'y arrivaient pas. Ils se demandaient eux-mêmes, mais nous, la patrie de Beethoven et de Goethe, comment on a pu arriver à la solution finale? Il a fallu les aider pour ça. Il a fallu occuper pendant une dizaine d'années la Sarre, par exemple. Il a fallu. L'armée américaine est toujours en Allemagne. Il a fallu imposer le multipartisme. Il a fallu soutenir des figures comme Adenauer, etc. Et donc, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui avec les Russes. Et c'est ça dont je parle dans ces bouquins-là. Mais cela dit, il y a d'autres. Par exemple, sur le système oligarchique russe, Catherine Belton, dont je parlais tout à l'heure, la Putin's People, c'est la référence absolue pour bien. Parce que ce système oligarchique, imaginez que en Russie, la Russie est le pays le plus inégalitaire du monde, où 75% des richesses nationales sont possédés par 1% de la population. Ce 1% de la population a fait que la Russie est le pays où il y a le plus de milliardaires au monde. Et ces milliardaires-là, depuis 20 ans, ont décidé de corrompre tous les systèmes démocratiques. Parce que les systèmes démocratiques contredisent une organisation mafieuse et oligarchique du pouvoir. Et donc, voilà, c'est important quand des journalistes, des historiens travaillent comme Catherine Belton à expliquer comment une société comme Gazprom infiltre des sociétés françaises comme Total Energy, au point que Total Energy a acheté plus de 19% des parts de Novatek, qui fait partie de Gazprom. Et aujourd'hui, le patron de Total Energy en Patrick Pouyanné dit: Ah ben, je ne peux plus partir de Russie, j'ai mis des dizaines de milliards d'euros en Russie, je ne peux plus partir. Mais moi, je me souviens quand j'avais sorti mon bouquin Occident-Russie, j'avais eu l'occasion de rencontrer son prédécesseur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire de Christophe de Margerie. Christophe de Margerie, qui avait dit, je lui avais offert mon bouquin, il était parti à mon bouquin Russie-Ukraine de la guerre à la paix. Il était parti à Moscou, je crois que c'était au mois d'octobre. Il avait dit qu'il appliquerait les sanctions qui avaient été adoptées par l'Union européenne, qui interdisaient tout transfert technologique et donc tout forage supplémentaire en Russie. Il a dit qu'il appliquerait les sanctions. Le soir même, son avion qui devait partir de Vnoukovo, l'aéroport de Moscou, une déneigeuse, alors qu'il ne neigeait pas à Moscou, s'est mise en marche et a percuté son avion. Il est mort sur le coup. Et quelques mois plus tard, on apprend que Total Energy signe de nouveaux contrats à Yamal avec l'appui de la présidence de la République. Voilà. Donc, je ne sais plus pourquoi j'en suis arrivé à cette affaire-là,
Pour
mais
avoir une autre, c'était dans le cadre de la bibliographie, pour avoir une meilleure connaissance un peu
voilà,
du paysage.
qu'il faut lire le bouquin de Catherine Belton sur les oligarques russes, parce que là, depuis 2 mois, on apprend qu'il y a 6 oligarques qui ont décédé, qui ont disparu. Et ça va percuter aussi notre façon. Là, si j'ai bien compris, l'Union européenne est en train de décider un embargo sur le pétrole. Ça va nous percuter également en termes de prix de l'énergie, de l'essence, etc. Il faut comprendre tout ça. D'où ça vient? Est-ce qu'on veut rester dans le système précédent, qui était un système où il y avait une corruption profonde, y compris de nos élites à nous, ou est-ce qu'on est prêt à se chauffer 1 degré de moins et se libérer des hydrocarbures russes? Moi, j'ai fait mon choix, hein, je vous le dis tout de suite.
Une autre question, peut-être?
Oui, et c'est ces gens-là que je voudrais, sur lesquels je voudrais qu'on attire l'attention de l'opinion publique et des médias. Et moi, de temps en temps, je suis invité et j'essaye d'en parler, mais c'est comme si ça intéressait personne. On est comme fasciné, comme un papillon de nuit par rapport à la lumière, par Vladimir Poutine. Et on ne voit que lui. Et j'ai beau dire, mais regardez, il y a des opposants en Russie et ils ne sont pas encore arrêtés. D'accord, Navalny, il est en prison. D'accord, Karamurza vient de se faire arrêter. Mais il y en a d'autres qui sont extrêmement courageux et qui prennent position aujourd'hui contre la guerre, alors que utiliser le mot de guerre est déjà passible de 5 ans de prison, voire plus. Et ces gens-là existent, mais simplement, on n'en parle pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle, moi, à titre personnel, j'ai proposé à la région Normandie d'organiser une rencontre avec un certain nombre de ces intellectuels, de ces hommes politiques russes, très courageux, qui vivent soit en Russie, soit en Europe occidentale. Aux États-Unis, on connaît Garry Kasparov, par exemple, l'ancien joueur d'échecs. Voilà un nom de quelqu'un qui a compris que il pouvait pas rester en Russie, qu'il n'y avait rien à attendre du régime poutinien, qu'il fallait proposer une alternative démocratique, et qui a un site internet, qui organise des choses. Simplement, on ne le voit pas. C'est vraiment. On est convaincu que la Russie est un grand pays. Hélène Carrère-Dancausse nous a expliqué que, bon, ils sont un peu sauvages, mais on les aime bien quand même. Et y a les Tziganes, et il y a l'âme russe, et enfin, je sais pas, il y a une sorte de mythologie de l'âme russe. Il y a cette idée que un grand pays pourra jamais être démocratique, ce qui est absurde quand vous regardez l'Inde ou quand vous regardez les États-Unis ou le Canada. C'est des grands pays où la démocratie fonctionne, mais on a des clichés qui en France datent du marquis de Custine et même avant encore, où on se dit que les Russes sont des esclaves et qu'ils ont besoin d'un joug, d'une poigne, et que ça peut être que Poutine. Et encore Poutine, on est bien content, parce que derrière, c'est Zyuganov. Avant, il y avait Jirinovski, là, il vient de mourir. Mais en tout cas, voilà, c'était la personne avec qui on... C'est un chef d'État. C'est pas du tout un criminel mafieux qui a du sang sur les mains depuis 22 ans. C'est quelqu'un avec qui on peut parler. Il n'a tenu aucun de ses engagements.
Alors, deux questions et on termine après peut-être. Hein, madame ?
Est-ce que la religion orthodoxe est enseignée aux jeunes, aux enfants, comme nous on enseigne la religion catholique ? Est-ce que c'est enseigné en Russie ?
Oui, c'est enseigné en Russie. Non seulement... En toute liberté ? Oui, ça c'était interdit d'enseigner la foi chrétienne avant la chute du mur de Berlin et la chute de l'Union soviétique en 91. Entre 91 et les années 2000, il y a eu un renouveau qui a rendu possible non seulement à ce que l'Église puisse enseigner, mais aussi même dans des structures d'État. C'est-à-dire qu'à l'école, il y a des options où on peut enseigner les fondements de la culture chrétienne. Donc, le problème, c'est que au même moment, cette Église orthodoxe s'est radicalisée. C'est-à-dire qu'elle, ce qu'elle enseigne, c'est la gloire de la Russie éternelle, du monde russe, et c'est pas du tout les fondements évangéliques dont on aimerait parler. Quoi. Vous voyez, c'est ça. L'Église s'est mise au service de l'État. Et donc le renouveau des années 90, qui est celui que j'ai un peu connu quand j'ai vécu en Russie, lui a été complètement mis de côté. Tous les prêtres, par exemple, ne serait-ce que de pouvoir prier en langue russe, le patriarche Kirill a dit hors de question. Et donc voilà, c'est comme si aujourd'hui on continuait à prier en latin. Combien de gens seraient capables de prier en latin aujourd'hui ? Voilà. Donc, c'est une église extrêmement conservatrice qui n'est pas du tout en contact avec les jeunes. Et les jeunes, et les intellectuels, et les artistes ont déserté cette église. D'où le taux de pratique dont je parlais tout à l'heure. Et là, je vais vous répondre, c'est très important. Premièrement, l'Église n'a pas tiré les enseignements. Bukowski, le dissident, avait dit en 92, il faut juger les crimes du communisme et notamment la collaboration de l'Église russe avec le régime communiste qui a commencé dès 1943, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Staline, qui avait détruit l'Église russe complètement, a refondé l'Église russe. C'est Staline qui a nommé le métropolite Serge chef de l'Église. Ensuite, il y a un concile qui s'est réuni pour le nommer formellement. Mais en gros, c'est Staline qui a refondé l'Église russe. Bon, ça, c'est une tâche indélébile que l'un des plus grands criminels du XXe siècle, qui a, pour la seule année 1937, éliminé 700 000 personnes, a été le refondateur de l'Église russe. Bon. Ça, c'est la principale chose qu'il faudra faire si un jour cette Église arrivait à sortir du drame dans lequel elle est maintenant. Et l'autre chose, plus grave encore, parce que ça, ça ne concerne pas que l'Église russe, ça concerne l'Église orthodoxe cette fois, c'est de n'être pas sorti d'un schéma qui date de Eusèbe de Césarée, qui était un évêque, comme son nom l'indique, de Césarée, donc de l'actuelle Turquie, qui, au IVe siècle après Jésus-Christ, a écrit deux livres, l'un très intéressant sur l'histoire de l'Église depuis les Actes des Apôtres jusqu'en 325, et l'autre, beaucoup moins intéressant, qui était un panégyrique à Constantin, l'empereur qui avait permis à l'Église de n'être plus persécutée, et dont il a fait comme le représentant de Dieu le Père sur la terre. Et ce panégyrique qu'a fait Eusèbe de Césarée à Constantin a été reproduit de façon non critique, selon cette logique de la mémoire fidèle. Si on est fidèle au concile, on est fidèle à Eusèbe. Et si Eusèbe a dit que Constantin était le représentant de Dieu sur la terre, eh ben, le tsar, refondé par Ivan le Terrible au XVIe siècle, en 1547, il est le représentant de Dieu sur la terre. Il y a un évêque qui s'est opposé au tsar Ivan le Terrible, qui s'appelle le métropolite Philippe de Moscou, qui lui a dit « Tu ne peux pas te dire le représentant de Dieu sur la terre, parce qu'au-dessus de toi, il y a la vérité du Christ. » Et ça, ça n'a pas plu du tout à Ivan le Terrible, qui a demandé à Maliuta, le chef de l'Oprichnina de l'époque, de l'étouffer, et il est mort étouffé. Et depuis ce temps-là, l'Église russe n'a pas eu l'audace, le courage, la liberté, la force de s'opposer au pouvoir du tsar. Et du coup, a justifié à nouveau cette théorie de la symphonie byzantine, que le tsar s'occupe des corps, le patriarche s'occupe des âmes. Et donc, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Et en plus, alors ça nous entraînerait trop loin, mais le patriarche Kirill, il dit, mais de toute façon, c'est quoi l'alternative? Parce que le patriarche Kirill, il n'était pas si radicalement anti-occidental il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il était considéré même comme un peu un libéral. Simplement, il a vu arriver des tas de missionnaires catholiques, protestants, pentecôtistes, lui expliquant que la démocratie occidentale, c'était bien mieux que la symphonie byzantine. Et ce qu'il a vu de la démocratie occidentale, c'était, comment dire, comme les Russes disent souvent, la démocratie, c'est une perte de temps. On passe son temps en France à protester, à discuter et à adopter des lois qui sont annulées par la majorité suivante. Donc, il a vu l'inefficacité de la démocratie. Et aujourd'hui, il a vu en plus, ça c'est le grand discours en Europe centrale et orientale, comme vous le savez, les mariages gays, les gay parades, voilà. Et ça, pour une église dont l'orthodoxie est la mémoire fidèle, on ne peut pas admettre une interprétation distincte des Écritures qui autorise l'homosexualité comme étant une réalité. Voilà. Donc pour lui, l'Occident, c'est la décadence et la démocratie avec, quoi.
Bien, mais écoutez,
qu'on termine là-dessus. plutôt sur une note d'espérance, en disant que il y a aussi, encore une fois, en Ukraine. Voilà, moi j'ai vécu une bonne dizaine d'années en Ukraine, et ce que je peux vous dire, c'est que ces églises en Ukraine, elles sont les seules aujourd'hui à être conscientes du danger que représente cette idéologie du monde russe, à lutter contre ça, un petit peu comme l'Angleterre a lutté seule contre Hitler entre juin 1940 et 1941, avant que les États-Unis ne rentrent en guerre. Et les Ukrainiens jouent un rôle qui est extrêmement important, sans pour autant être dans le revanchisme, dans la violence. Les chefs des églises, puisqu'on parlait du rôle des églises, jouent un rôle déterminant pour dire, tant Shevchuk, le chef de l'église gréco-catholique ukrainienne, que le patriarche, le métropolite Épiphane disent, si la haine s'empare de toi, tu es déjà vaincu. Ne vous laissez pas vous diviser, vous affaiblir par le sentiment de la haine. vous devez garder au plus haut de vos valeurs et de votre vie le sens de l'amour. Et c'est ce sens de l'amour évangélique qui pourra triompher. Et ça, je l'ai entendu de tous les chefs d'église en Ukraine, et je trouve que c'est magnifique comme leçon, parce que c'est franchement, quand on voit tout ce qui se passe comme drame, qu'ils aient la force morale de conduire leur peuple vers ça, je trouve que c'est magnifique. Et je préfère qu'on termine là-dessus.
Et je crois que sans être immédiat, bien entendu, vu ce qui se passe, le processus que vous nous avez décrit et expliqué sur explication, réconciliation, le fait de parler de justice, est une note d'espoir pour un avenir certainement à moyen terme, mais c'est une note d'espoir parce que c'est aussi passé dans d'autres pays. Je pense au Rwanda, je pense à Colombie. Enfin, il y a toutes sortes de mises en place comme ça, de procédés très concrets qui, douloureusement mais efficacement, permettent quand même aux gens et aux générations de reprendre pied. Merci beaucoup pour cet apport et cette...